19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Et elle est importante cette émission, justement pour vous donner la parole avec Philippe David et Mathéo jusqu'à 20h avec des sujets qui vous concernent aussi si vous avez des enfants. Et puis même si vous n'en avez pas, vous dites que le niveau des élèves, c'est un problème.
Ah, le moins qu'on puisse dire quand on voit les résultats de PISA hier, c'est que c'est un effondrement.
Absolument.
Est-ce que vous constatez, vous, en tant que prof, en tant que parent d'élève, en tant qu'employeur, parce que vous faites peut-être passer des entretiens d'embauche en vous disant mais la personne n'est plus compétente comme les gens diplômés il y a 10, 15 ou 20 ans l'étaient. Venez témoigner au 0826 300 300.
Et vous avez vu, le baril est passé à 100$, le baril, forcément ça se voit à la pompe. On a envie de vous entendre là-dessus, si vous avez besoin de votre voiture pour travailler. Je voyais hier un petit peu partout des gens qui disaient, en fait finalement, ça sert à rien que je sorte travailler puisque de toute façon je suis déjà à perte.
C'est absolument terrifiant. Vous vivez en zone rurale, vous êtes obligé de prendre votre voiture et ça vous coûte de plus en plus cher. Vous êtes obligé de faire des sacrifices. Ou lesquels faites-vous? Ou comment faites-vous la débrouille, le covoiturage avec les collègues? Venez témoigner au 0826 300 300.
Et puis sur ces policiers municipaux dont les mots abjects, que ce soit sur le racisme,
sur
la misogynie, enfin sur tous ces propos-là, on a envie d'avoir des policiers aussi au 0826 300 300 pour effectivement dire que ils ne sont pas tous comme ça. Ce sont des cas à part. Effectivement, il faut les sanctionner.
Ou vous avez été victime de comportements déviants de certains policiers, venez témoigner encore et toujours au 0826 300 300.
Ça va, Mathéo?
Très bien, merci Cécile.
Et le 0826 300 300.
Bonsoir, tiens, direction la Corrèze, un très beau département. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bon, vous êtes
Philippe.
D'un beau département, mais vous avez un beau prénom en plus.
Ah ouais. C'est un parti pris.
J'ai jamais eu l'occasion de demander à mes parents pourquoi ils m'avaient prénommé comme ça en 1959. Je pense que c'est plus pour Leclerc que pour le maréchal. Quand même.
Oui, probablement. Alors, vous êtes ancien instituteur et vous nous l'avez dit au 0826 300 300, beaucoup de choses à dire et de solutions à apporter pour essayer de remonter PISA. S'il n'est pas trop tard.
Alors, c'est le problème date de une cinquantaine d'années. Donc, il ne sera jamais réglé le temps d'un ministère, même s'il durerait 5 ans. Temps d'une présidentielle et d'un ministère. Donc, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, moi, je suis rentré dans l'enseignement comme instituteur en 1982, ça marchait parfaitement bien. Vous arriviez dans une classe, quel que soit le milieu, il y avait le respect du professeur, de la part des élèves et de la part des parents, quel qu'il soit. Je ne dis pas que les élèves étaient tous formidables, mais il y avait le respect. Donc déjà, il n'y a pas d'apprentissage dans le chahut, dans le bordel.
Ça, c'est
et
clair.
Ça, c'est la règle de base. Si vous voulez faire passer des notions plus ou moins complexes, s'il y a du bruit, s'il y a du chahut, il y a 10% des élèves qui captent et les autres se détournent du cours. C'est tellement évident, ça. Alors, après, ce qui s'est passé pendant ces 50 ans, j'ai dû avoir une quarantaine de ministres, j'avais compté. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministre, en fait, il était assez impuissant, finalement, d'après ce que j'ai compris. Parce que de droite ou de gauche, il avait sous lui une haute administration, haute Grenelle, avec une espèce de secte de pédagogistes. Alors, il y en avait des vertueux, puis il y en avait des... Il y en avait des moins vertueux. Et surtout, il y en a qui ont mal été compris. Donc, notamment, le fameux Philippe Mérieux, qui, en 89, a inspiré Lionel Jospin pour l'élève au centre.
Alors, absolument. Alors, je rappelle, je vous coupe, que Philippe Mérieux est un pédagogiste, plutôt classé à gauche, on peut dire ça comme ça, qui a voulait que l'élève soit au centre du système éducatif. C'est ça.
Tout à fait. C'est exactement ça qu'il souhaitait. Donc le professeur, sur son estrade, le magistère qui savait tout, avec 30 élèves bien sages devant lui, il a cassé un peu ce moule. Alors, ça a marché pendant 2000 ans, et puis les idéologues dans la secte des pédagogiques, parce que c'est vraiment une secte, a décidé que ça ne sera plus comme ça, et c'est à partir de là que tout a commencé à déconner à plein tube. Donc on a vu arriver des réformes, et on a, dans ces réformes, baissé les exigences des élèves et aussi des professeurs. Parce que moi, quand je suis parti à la retraite il y a 3 ans, je peux vous dire que le niveau de mes collègues, sans être arrogant, c'était pas le même que celui quand j'étais rentré à l'école. Moi, j'avais des collègues qui étaient des gens qui avaient une culture générale immense. Et là, vous avez des fois, c'est regrettable à dire, mais au CM2, quand vous enseignez le pourcentage ou la règle de droit, bah, vous avez des collègues qui ne maîtrisent pas ces notions. Donc comment voulez-vous les enseigner ? C'est donc clair. La discipline, les contenus et les bases à l'école élémentaire, on est là pour les bases, pour l'orthographe, on est là pour bétonner la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire. On est là pour ressasser ça tous les jours, 6 heures par jour. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est très bien de les avoir 6 heures par jour. Alors évidemment, il faut faire de l'éducation physique, oui. Mais les ministres nous ont aussi orientés vers des choses qui sont pas notre sort, qui sont plus de l'éducation des parents. Moi, je suis désolé, on n'a pas à enseigner à nos élèves d'être des bons citoyens. À mettre les déchets dans les bonnes poubelles et à se poser des questions.
Excusez-moi, et à dire bonjour, au revoir, merci. Ça, c'est l'éducation, c'est les parents. C'est pour ça que je veux dire, moi, je vais vous dire une chose, je suis partisan qu'on rebaptise le ministère de l'éducation ministère de l'instruction. Parce que l'école est là pour instruire, c'est la famille qui est là pour éduquer. Mathéo voulait réagir, Philippe.
Donc vous, bonsoir Philippe. Donc vous, vous dites que vous constatez, en plus d'une baisse du niveau des élèves, une baisse du niveau des instituteurs.
Oui, je suis formel. Formel.
Donc, voilà. Pour vous, le problème vient aussi de là, de la formation de ces instituteurs.
Oui, on recrute des gens qui ne maîtrisent pas l'orthographe. Alors, ça la fout mal, quand même. On recrute des gens qui ne maîtrisent pas la géographie. Alors, la géographie physique, ça a disparu. Hein. Avant, on apprenait les fleuves, le relief, les productions agricoles, industrielles. Alors, maintenant, tout ça, ça a disparu. Donc, c'est une espèce de goulbi-goulba. Là, on apprend les mobilités douces, les bonnes poubelles. Mais putain, mais c'est bullshit, ça. D'abord, on forme des citoyens et après, on les éduque, on leur fait apprendre, maîtriser la langue et le maths. Et après, eux, ils iront chercher des informations concernant leur pensée, leur esprit critique.
Mais Philippe, vous avez dit votre année de naissance, vous êtes de 59, c'est ça ? Nous avons 7 ans d'écart. Moi, j'ai connu l'époque. Vous dites qu'aujourd'hui, le niveau des enseignants est bien plus mauvais qu'à l'époque. D'accord ?
Ah oui.
Moi, à l'époque, mes institutrices, elles avaient juste le bac. Dans les années 70, hein, je suis rentré en CP en 72 de mémoire. Aujourd'hui, les professeurs des écoles, pardon, pour ne pas commettre de blasphème, ont des bacs plus 5, font des fautes d'orthographe et ne sont pas, vous me passerez l'expression, opérationnels. C'est bien ce que vous dites. Comment est-ce que vous expliquez que les gens avaient un meilleur niveau avec le bac plutôt qu'un bac plus 5 ?
C'est tout simple, c'est le niveau du bac qui a changé. C'est élémentaire. Bon, après, je ne mets pas tous les enseignants dans le même panier, mais moi, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop qui ne maîtrisent pas les bases. Je veux dire, en maths, ça ne veut pas faire des divisions, des pourcentages ou calculer des fractions. Voilà, donc c'est quand même grave quand vous êtes au CM2, si vous êtes obligé de demander à Internet comment on résout un problème, c'est quand même grave. Alors là, vous perdez du crédit parce que vos élèves, attention, ils sont malins. Hein. Ils voient tout de suite s'il y a une faille. Il y a une faille, c'est fini après.
Ça, c'est clair. Philippe, avant de faire une pause, et vous allez rester avec nous, c'est très intéressant, vous allez nous parler de vos solutions. Est-ce que, vous avez dit, vous avez plus de 40 ministres de l'éducation, s'il y en avait un qui sortait un peu du lot, meilleur que les autres, lequel, allez, vous pouvez même en citer deux ou trois, serait-il ou elle, évidemment, bien sûr.
Alors, j'avais de la sympathie pour Jean-Pierre Chevènement.
Oui. C'était sous Mitterrand, ça.
Voilà. Ça, c'était quand j'étais encore de gauche.
Oui.
Et sinon, Luc Ferry. Alors, Luc Ferry, il était très bon avant d'être ministre, très bon après, mais pendant, il a été mauvais. Il s'était mangé le cerveau par la secte qui est en dessous de lui.
Excusez-moi, Philippe, mais un ministre, quelqu'un, on lui demande d'être bon quand il est ministre, pas avant et pas après. Ça, à mon avis...
Non, mais
vous
ne
manquez pas d'humour.
Il en faut, sinon on ne survit pas. Et puis, j'ai cru un peu en François Fillon, mais il n'a pas été bon non plus. Là. Franchement, là, on est allé de Karine dans ce style-là. Hein.
Philippe, il faut qu'on fasse une pause. Vous avez été très bon avant la pause. Vous allez être très bon après la pause. Mais il faut bien vivre, Mathéo.
Il faut bien vivre, exactement.
Et si vous voulez réagir, un seul numéro.
Le 0826-300-300.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Retour des vraies voix écoutent la France, Mathéo. On parle de plusieurs sujets, notamment un qu'on n'a pas pu aborder hier soir, parce qu'on avait beaucoup d'appels sur les autres sujets, qui est le classement PISA. J'allais dire le naufrage PISA.
Le naufrage PISA où la France se classe 27e sur 91 pays. Le programme PISA, on le rappelle, hein, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est un ensemble d'études menées hein, vis-à-vis des élèves pour mesurer les performances pays par pays. Et autant dire que bah, la France, ça va de mal en pis.
Vaste programme. On avait Philippe de Corrèze qui était prof de 82 à il y a 3 ans, donc 2023, qui a plein de choses à dire. On a Nathalie qui nous appelle de région parisienne, mais on a déjà Lionel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir à tous.
Alors, vous avez entendu le témoignage aussi passionné qu'amusant de Philippe. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter ?
Bah déjà, je suis en majorité d'accord avec tout ce qu'il a dit, hein, de par son expérience de prof et puis les constatations qu'il a tirées. Donc effectivement, je pense que le niveau a baissé, même au niveau du recrutement des professeurs. Et en même temps, on va dire que les élèves ont du mal maintenant à se concentrer, sont tout le temps perturbés par les réseaux sociaux et donc ils n'arrivent pas à se plonger, à être concentrés pour faire leurs devoirs ou ils n'ont plus de motivation. Donc je ne sais pas si c'est dû effectivement au numérique ou si c'est un manque de motivation généralisée, mais je pense qu'il y a ils sont plus assidus comme ils l'étaient avant. Voilà. Ils ne veulent plus non plus faire plaisir aux parents en faisant des efforts dans certains cas.
Lionel, vous êtes parent d'élèves, enseignant, ancien enseignant ?
Non, parent d'élèves.
Parent d'élèves. Et sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligé de répondre, vos enfants ont quel âge ?
J'ai un fils de 17 ans.
Oui. Donc là, il est pratiquement au bac.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, quand il était petit, il travaillait très très bien. On lui faisait faire ses devoirs. On lui donnait des devoirs en plus avec des cahiers de devoirs. Oui. Il voulait lui faire plaisir. Il travaillait beaucoup. Il avait un très très bon niveau. Et en grandissant, malheureusement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, du téléphone, etc., il s'est un peu décroché, on va dire. Et il a beaucoup de mal à se concentrer. Et même s'il commence à faire des devoirs, il va être dérangé par un message, des amis qui vont l'appeler, etc. Donc, ils sont vraiment captés par le téléphone. Ouais. Et ça devient vraiment une drogue et c'est vraiment très délicat. Parce qu'en fait, si on leur retire le téléphone, ça devient presque...
La guerre.
La guerre, voilà, c'est ça. Voilà, on a beau leur donner des limites, ils n'écoutent pas les limites qu'on leur donne, on leur donne des conseils, ils ne veulent pas écouter les conseils non plus. Donc on ne sait plus trop quoi faire, hein. On est vraiment sur le fait accompli et je pense que malgré qu'il ait manqué de rien et qu'on ait toujours été derrière lui, ben c'est très difficile de le canaliser, de lui donner cette motivation, cette envie d'apprendre, d'être concentré, etc. Et comme le disait l'ancien enseignant tout à l'heure, Philippe, effectivement, dans les classes, il suffit qu'il y ait un élève ou deux élèves
qui perturbe.
Tout le monde est déconcentré, en fait. Voilà. Donc ça devient une problématique parce qu'ils essayent des fois de faire des classes séparées en mettant entre guillemets les élèves les plus compliqués dans une même classe, mais ça règle pas le problème. C'est-à-dire que ça crée encore plus de problématiques, même si ça les écarte, on va dire, d'une classe plus ou moins motivée. Mais le souci, c'est ça, c'est qu'il y a plus de respect, en fait, comme il disait, des professeurs. Ils vont à l'école, ils sont plus trop motivés. Voilà. On a l'impression qu'ils y vont parce qu'ils sont obligés, mais ils n'ont plus de motivation, ils ne voient pas. Ils ne se projettent pas dans l'avenir en disant j'y vais pour apprendre, pour construire mon avenir. Ils n'ont plus du tout ça en tête.
Lionel, je voudrais poser une question à Philippe. Et vous allez l'écouter, je vais la poser à Nathalie qui est enseignante également dans quelques instants. Philippe, vous avez commencé l'enseignement en 82, il n'y avait pas de tablette. On avait le Minitel quand même, je crois, en 82, à peu de choses près, mais on ne l'avait pas dans sa chambre. Est-ce que, comme le dit Lionel, vous avez vu les choses se dégrader avec l'arrivée des téléphones, des tablettes et tutti quanti ?
Alors, je vais être assez arrogant, je vais dire non parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, dans classe, à l'école primaire, t'as pas. Moi, j'ai refusé les tablettes et tout. Moi, j'avais un PC hein, dont je me servais avec un vidéoprojecteur parce que c'est bien pratique. Mais eux n'avaient pas ça et eux, Lionel est juste, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut pas baisser les bras, c'est réversible la concentration. Si
ah bon,
on
bien
est
sûr.
Bon, si on est intéressant, si on a de l'autorité naturelle, ou l'autorité parce qu'on a du savoir, on peut capter l'attention des élèves. Alors ça va, il va falloir ramer au début de l'année, mais je vous assure, en 3 semaines, 1 mois, ça peut être réglé. Hein. Ils vont vite, parce que les gens, les élèves de maintenant sont largement aussi intelligents qu'il y a 50 ou 60 ans.
Ah, mais ça, il n'y a aucun
ça
doute.
Ça n'a rien à voir. Donc en fait, ils ont perdu l'habitude d'être attentifs, mais on peut leur redonner les moyens d'être concentrés et tout. C'est tout à fait possible. Moi, je suis optimiste. Hein. Toutes les rentrées, je me battais en général une semaine, 10 jours, et puis après, ça se passait bien. Voilà, il faut pas baisser les bras, hein, je crois pas. Alors après, finalement, quand on voit les pays scandinaves, la Silicon Valley, bah, les gars qui ont inventé les tablettes, les téléphones portables et tout, ils ont mis leurs enfants dans des écoles, on va dire, à l'ancienne, hein, presque au niveau de la Grèce d'il y a 2000 ans. Donc, je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. En gros, l'enseignement, il n'y a pas 50 000 façons d'apprendre. Hein.
C'est voilà. Clair.
Après, il y a des supports différents.
Bien sûr.
Il y a des supports.
Bah, excusez-moi, mais on est passé de l'encyclopédie à l'encyclopédie sur ordinateur, tablette ou téléphone. Lionel, Philippe, restez avec nous. Nathalie nous a appelé au 0826 300 300. Vous voulez réagir, vous aussi, n'hésitez pas, appelez-nous pour témoigner. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Vous avez entendu Philippe, vous êtes enseignante depuis combien d'années ?
28 ans.
Ah oui, donc Philippe a comment 28 ans, donc ça nous met à 1998, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Donc oui, 16 ans après Philippe, 2 années de Coupe du Monde d'ailleurs, où la France avait brillé, soit dit en passant. Vous avez entendu le témoignage de Lionel, père d'un jeune homme de 17 ans, qui dit que ça, tout a changé depuis l'arrivée des tablettes et des téléphones. En 98, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablette non plus. Est-ce que vous avez constaté une dégradation en rapport à l'arrivée de ces outils, qui peuvent être très positifs dans d'autres domaines, soit dit en passant, hein.
Alors moi, je suis enseignante en CE1, j'ai des élèves de 7 ans, donc en classe, je ne me sers pas de tablette. Mais en fait, je sais qu'à la maison, ils s'en servent énormément, c'est-à-dire que les enfants maintenant ne prennent plus le temps de lire, de faire des jeux de société avec les parents. Et tout ça, ça a des répercussions sur le français, les maths, parce que finalement, un jeu de société, quand on joue au jeu de loi, il faut apprendre à se déplacer, avancer de temps de case. Enfin, moi, chez les petits, je le ressens. Et je ressens aussi sur le manque d'attention. Des fois, je fais des PowerPoint parce que maintenant, on a des tableaux numériques dans nos classes. Et là, par contre, dès que je mets un PowerPoint au tableau, ils sont tout de suite, j'ai toute la classe qui est attentive. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir comme ils sont attirés par les écrans. Quoi. Donc,
excusez-moi, je vais jouer le vieux de la vieille. Le bon vieux tableau en ardoise et l'écran, ça a disparu ?
Ça a disparu, oui. On est avec des stylos. Alors, attention, je dis une marque, un Velleda.
Oui.
Et puis, on a des écrans numériques sur nos... Enfin, voilà, c'est un tableau blanc et on peut projeter avec notre ordinateur de classe des choses sur le tableau.
D'accord.
Donc, voilà.
Allez-y.
Oui, allez-y. Non, moi, je voulais revenir sur l'inclusion, qui peut parfois poser souci dans les classes. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'enfants. Alors moi, j'ai eu un élève l'année dernière qui avait un top. C'est un trouble obsessionnel avec provocation. Donc, il était capable de monter sur les tables pendant que je faisais ma leçon. À côté, j'avais 30 élèves, parce que cette année-là, l'année dernière, j'avais 31 élèves de 7 ans. Donc, j'avais un élève qui avait un trouble de la trisomie.
Oui.
Après, c'est au détriment, je veux dire, des autres enfants. Enfin, à 30, 31 avec des enfants particuliers...
Alors, si vous en avez un qui monte régulièrement sur les tables pour taper sur les autres, etc., c'est sûr que ça, pour concentrer la classe, c'est un peu compliqué.
Et plus ceux qui ont les casques anti-bruit, ceux qui sont dyslexiques, donc ils ne peuvent pas faire comme tout le monde, par exemple, sur les dictées, on adapte tout. Enfin, du coup, c'est un peu à la carte, mais je pense que c'est au détriment, du coup, des autres enfants, parce que seul à 30, c'est compliqué. Et les changements de programme. Et nous, en primaire, depuis 2022, on a l'APQ qui nous a été rajouté. C'est-à-dire
c'est quoi ?
Une demi-heure de sport en plus. Enfin, une demi-heure de sport par jour. Bah oui, mais il faut bien. Voilà, il faut les prendre quelque part, quoi.
Oui.
Alors, je vais vous dire, c'est pas bien. Hein. Je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps de faire une demi-heure de sport tous les jours. Je préfère faire ma lecture. Je préfère, toutes ces choses-là que une demi-heure de sport par jour.
Alors, votre témoignage est passionnant. Vous voulez témoigner, vous aussi ? Un seul numéro, le 0826 300 300. Philippe, Lionel, Nathalie, restez avec nous. On doit faire une courte pause et on vous retrouve dans quelques instants, Mathéo.
Bah, tout de suite, dans
quelques
instants.
Tout de suite, dans quelques courts instants.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
Retour des vraies voix écoute la France avec évidemment Mathéo Lamblot. On a ce débat passionnant sur PISA et l'éducation. On va retrouver Philippe Lionel et Nathalie dans quelques instants. Mais on va déjà faire le teasing de la matinale de demain avec Jacques Cardoz. Bonsoir Clément Barguin.
Bonsoir Philippe, bonsoir à
tous.
Quel
est le menu ?
Eh bien demain dans la matinale, on va bien évidemment revenir sur ces propos racistes et discriminatoires d'un policier municipal à Carcassonne. Réaction politique de toutes parts, ouverture d'une enquête par le parquet. Stupéfaction à Carcassonne, on sera sur place avec notre envoyé spécial. Des reportages à écouter dans les journaux de Clara Pierney. À 7h10, le coup de gueule d'un pompiste indépendant. Il appelle l'État à réduire les taxes, la seule solution selon lui de faire face à l'explosion des prix des carburants. Il regrette notamment que la profession ne soit pas conviée aux réunions à Bercy, et cela alors qu'on atteint des records. Vous ne le connaissez peut-être pas encore si je vous dis Jacob Coxon. Philippe David, non, ça ne vous dit rien.
Je ne connais pas.
On parle de lui depuis hier, beaucoup dans les cercles du pouvoir et dans le monde de l'intelligence artificielle. Cet homme de 27 ans a annoncé son départ d'Anthropique et de l'industrie de l'intelligence artificielle. Sa crainte que les modèles ne finissent par devenir incontrôlables, qu'ils détruisent l'humanité. Une prise de position assez rare et une mise en garde qui a de quoi nous alerter. On va en parler à 7h40. Et puis l'invité politique de 8h30 à 9h, ce sera Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe.
Merci beaucoup Clément Barguin, et vous retrouvez Jacques Cardoz demain à partir de 7h. Alors, Nathalie, Philippe et Lionel, on va vous mettre tous ensemble pour que vous nous exposiez vos solutions pour faire remonter le niveau de PISA. Tiens, on va reprendre, excusez-moi, nous, avec Philippe, qui est le plus d'ancienneté. Philippe, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remonter le niveau scolaire en France ?
Alors, en 1, il faudrait rétablir une autorité verticale dans les classes qui part du président de la République jusqu'au prof. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'institution, le ministère de l'Éducation nationale, défend ses professeurs. On a vu les dérapages que ça peut occasionner. Parce que souvent, vous avez des chefs d'établissement qui ont peur pour leur carrière, parce qu'ils font trop de conseils de discipline, trop de soucis avec certains profs, et ils ont tendance à ne pas donner raison aux profs. Donc après, c'est mort.
D'accord.
Deuxième chose, rétablir les redoublements. Redoubler, c'est pas une sanction, c'est une deuxième chance. Tu sais pas lire à la fin du CP, on va pas t'envoyer au CE1 parce que toute ta scolarité, ça va être une catastrophe. Voilà des choses simples. Autre chose, nettoyer le ministère de tous les parasites qui servent à rien.
Ça, c'est votre point de vue.
Remettre les gens devant des élèves. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à des tas de méthodes et ça marche jamais. Et ces gens-là, ils sont jamais devant des élèves. Ils viennent donner des conseils à tout le monde. Demandez à ma collègue du CE1 ce qu'elle en pense. Voilà, vous avez des réunions. Vous avez 108 heures de réunions dans l'année quand vous êtes instit. C'est 36 semaines de travail, 3 heures par semaine avec des réunions. On pourrait en enlever beaucoup de ces réunions et être plutôt devant nos élèves qu'à écouter des lubies de pédagogistes fous. Voilà.
Alors, quatre points. On va écouter Nathalie, on conclura avec Lionel, comme il n'est pas enseignant. Nathalie, vous qui êtes en CE1, qu'est-ce que vous pensez des propositions de Philippe, qui est jeune retraité, ça fait 3 ans qu'il a pris sa retraite ?
Eh ben, je suis complètement d'accord avec lui. Je dirais pareil. Alors, je suis d'accord sur le redoublement, parce que maintenant, il ne faut plus faire redoubler. C'est comme on ne met plus de notes, on met des lettres. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Un meilleur recrutement des enseignants, parce que moi, à l'époque, quand j'ai eu le concours, c'était 14 la moyenne. Je sais que maintenant, on est à 6 et qu'on prend des gens qui font ce métier, qui passent le concours, mais qui n'ont pas, je dirais, la foi.
Voilà. S'ils n'ont pas la foi et pas le niveau, là, c'est problématique, non ?
Mais je suis complètement d'accord. D'où, mes dérives. Qu'on arrête de changer les programmes et surtout qu'on arrête de les baisser, parce que il y a quelques années, alors, il y a 20 ans, j'étais déjà en CE1, j'ai changé entre-temps, mais oui. On faisait la multiplication posée. Maintenant, en CE1, on ne fait plus la multiplication posée. Je ne fais que l'étape de multiplication à connaître par cœur. Les enfants ne sont pas plus bêtes.
Oui.
Et puis, moi, je suis d'accord aussi avec Philippe.
Excusez-moi, ce que vous appelez la multiplication posée, vous notez 47 multiplié par 4 et vous faites la multiplication sur une feuille de papier, c'est ça ? D'accord, ok.
Voilà, c'est ça. Ça, maintenant, on ne le fait plus en CE1.
Et vous le faites plus ?
Non. Et puis, moi, qu'on arrête de changer les programmes, l'APQ qu'on nous a rajouté, donc les 30 minutes de sport à faire en classe.
Êtes d'accord ? Je prends le point 3. Les pédagogistes, pour vous, les gens du ministère sont déconnectés du terrain ?
Ah, mais complètement. Et puis la réunionite aussi, donc les réunions qu'on a, voilà, qui ne servent pas à grand chose. Ben moi, je préférais les avoir devant les enfants ou qu'on me donne vraiment des outils pour l'inclusion, parce que, enfin, moi, l'inclusion, c'est quand même un gros souci, quoi. Je suis pas formée pour certains enfants.
C'est vrai que si un gamin saute sur la table régulièrement, vous n'êtes pas formée pour le calmer, lui faire reprendre ses esprits, aller s'asseoir et ne pas perturber le cours. Ça, on est bien d'accord.
Ouais, ouais. Et puis, bon, on a des enfants autistes, etc. Moi, j'ai rien contre du tout, mais je ne suis pas formée. Je ne suis pas formée, il me faut une formation.
Mais j'ai une question à vous poser. La réunionite, c'est une réalité aussi ? Ou alors c'est selon les chefs d'établissement, il y en a qui adorent les réunions et qui en font, et d'autres qui disent c'est du temps perdu, on n'en fait pas ?
Alors moi, j'ai toujours eu, là, ces dernières années... Alors, je dirais que j'avais une ancienne directrice qui faisait une réunionite. Enfin, il n'y avait rien. On restait 3 heures à l'écouter une fois par semaine le mardi soir jusqu'à 20h, de 17 à 20h, où elle nous donnait des infos. Il y aura la fête de l'école tel jour. Alors, on avait des infos à gogo, mais aucun lien vraiment avec la pédagogie, etc. Là, j'ai une nouvelle directrice qui a l'air un peu plus au point sur voilà, la pédagogie. Donc, j'espère qu'on va avoir des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est un point d'interrogation puisque je n'ai pas encore eu ma première vraie concertation, j'ai envie de dire.
Oui, pour dire une réunion. Restez avec nous, on va faire réagir Lionel pour conclure. Lionel, vous qui êtes parent d'élèves, alors en terminale, hein, Philippe c'était le CM2, Nathalie le CE1, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, en tant que parent d'élèves, dont évidemment le fils est passé par le CP, le CM1, le CE2 et tutti quanti?
Oui, moi je pense que, comme le disait tout à l'heure l'enseignante, Nathalie, je pense qu'ils sont trop nombreux en classe. Je pense qu'il faudrait faire peut-être plus de classes, mais avec des nombres moins importants. C'est-à-dire quand les élèves sont 30 ou 31, c'est un peu compliqué pour gérer la dissipation, la concentration. Voilà, je pense que plus les classes sont un peu restreintes, meilleure est l'ambiance et meilleure est la concentration. Après, comme le disait notre enseignant, il disait Philippe. Quelquefois, Philippe, c'est au prof de captiver l'élève, mais à un moment donné, le prof, il va essayer de captiver les élèves, mais s'il voit, ou la première, deuxième ou troisième fois que ça ne marche pas, ou que malgré tout, ils ne sont pas motivés, il a beau faire ce qu'il peut, il ne peut pas non plus faire des miracles. Oui. Donc, il faut que ça soit aussi, malgré le fait qu'effectivement, le fait que le cours soit bien construit, intéressant, ça peut amener une captation d'attention. Bien maintenant, sûr. Je pense qu'il faut que déjà moins d'élèves, il faut qu'il y ait peut-être un suivi du directeur, etc., qui voit à peu près les problématiques de plus près dans les classes. Si effectivement, il y a des élèves qui ont des problématiques personnelles, des problématiques psychologiques, des problématiques de travail, qui soient plus à même de voir en rencontrant les parents, peut-être les assistantes sociales, peut-être après des psychologues. Moi, je pense que ça serait obligatoire qu'il y ait, comme avant, une infirmière et un psychologue dans toutes les écoles, hein, pour pouvoir éventuellement avoir l'avis des élèves qui ne sont pas bien et l'avis aussi des professeurs qui, parfois, ne sont pas bien non plus. Donc, je pense qu'ils ne sont pas assez soutenus à ce niveau-là aussi, parce que c'est un métier quand même qui est très éprouvant nerveusement. Voilà, donc je pense qu'il y a tout ça à voir et le fait, faut pas que ça soit juste avant les élections que les politiques aient des grandes idées, hein, comme là, mettre des limitations sur les téléphones portables pour les mineurs, et finalement, c'est pas 6 mois avant une élection qu'on fait ça, on fait ça dès le début. On peut instaurer dès le début des réseaux sociaux, voilà, les mineurs, d'accès, et après, c'est majeur, il faut être majeur et avoir l'autorisation des parents pour pouvoir accéder éventuellement, pour éviter du coup de tomber dans cette addiction. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et malheureusement, il faudrait qu'il y ait des concertations comme ils l'ont fait peut-être avec les chefs d'entreprise, que chaque candidat vienne rencontrer des professeurs de plusieurs écoles et qu'ils essaient d'en tirer un programme qui enrichisse réellement les problématiques. Ce ne soit pas que des promesses et que des bonnes idées qui ne voient jamais le jour, en fait.
Merci beaucoup à tous. Merci Lionel, merci Nathalie, merci Philippe de nous avoir contactés au 0826-300-300 pour vos échanges passionnants. Et ce qui fait du bien, Mathéo, c'est que quand on entend les gens du terrain, eh bien on se dit, eux, ils ont des solutions. Ce n'est pas vraiment comme les hauts fonctionnaires ou les politiques.
Et ça va continuer.
Ça fait du bien.
Et ça va continuer sur le prochain débat, Philippe. Est-ce que vous êtes allé faire votre plein récemment ?
Lundi soir.
Il était à combien le litre ?
2,25 euros.
De gasoil.
Je suis au gasoil, oui.
Ouais, 2,25€. C'est la réalité du moment, hein, parce que le prix du diesel, hein, se situe donc entre 2,30€ le litre, à 2,30€ le litre, et celui du sans-plomb entre 2€ et 2,20€. Le prix du Brent de pétrole est passé même au-delà des 100$. C'était une première depuis plusieurs mois, la barre symbolique. Donc, si vous devez faire des sacrifices, que vous annulez certains trajets, venez témoigner au 0826 300 300.
Et auparavant, on aura Jacques qui veut réagir, oui, sur les fichiers, l'éventuel fichier des mauvais payeurs, des locataires mauvais payeurs. Vous voulez réagir, le 0826 300 300.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
On a beaucoup parlé d'éducation par le biais de PISA avec nos auditeurs. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui vous a fait réagir pendant les vraies voix. C'est le problème du fichier des locataires mauvais payeurs, Mathéo.
C'est une idée du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, donc, de créer un fichier permettant aux propriétaires d'identifier ces locataires mauvais payeurs.
Et on va mettre le cap à l'est, direction l'Alsace. Bonsoir Jacques.
Bonsoir monsieur Philippe David, je suis un de vos grands fans.
Oh, merci beaucoup, appelez-moi Philippe et...
Vous êtes son grand fan.
Oh, merci. On vous écoute, Jacques, pour...
Eh bien voilà oui, ma situation. Donc je suis locataire d'un appartement depuis plus de 10 ans.
Oui.
Et j'ai pris cet appartement parce que, évidemment, à l'époque, j'étais dans une situation compliquée qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Parce que ce loyer était vraiment très raisonnable. Malheureusement, le propriétaire a fait faillite, donc l'immeuble a été vendu à un investisseur,
oui,
qui ne pense que fric, et qui aujourd'hui utilise toutes les méthodes possibles et imaginables pour m'augmenter mon loyer, alors qu'il n'a pas le droit de le faire.
Oui.
Jusqu'à, par exemple, me faire des factures d'eau, alors que j'ai été absent pendant 26 mois de mon appartement.
Ah oui.
Ça fait 10 ans que je suis plus de 10 ans que je suis dans l'appartement. On a un jardin avec des arbustes. Je faisais même un jardin, un potager à un moment. Bizarrement, tout de suite, il m'a coupé l'accès au jardin et à la cour. Je ne peux pas avoir l'allée du portail.
Ah oui. Et vous avez fait des recours avec un avocat, un médiateur.
C'est en cours, mais moi je dis que si on doit avoir un fichier des mauvais payeurs au niveau des locataires, je crois qu'il faudrait aussi mettre en place un fichier des mauvais propriétaires, parce que là, ça, c'est le comble du comble.
Alors Jacques, permettez-moi de vous dire une chose, je suis entièrement d'accord avec vous, ça marche dans les deux sens.
Voilà, la dernière qu'il vient d'inventer, alors que je rentrais vendredi de l'hôpital où j'ai été opéré d'une tumeur, j'avais dit qu'il fallait me foutre la paix la première semaine de septembre. Il est venu avec un avenant me demandant d'augmenter le loyer parce qu'il va installer une pompe à chaleur dans le logement. Et donc, en fin de compte, il touche les aides de l'État. Oui. Il a la TVA à 5,5% puisque c'est rentré en service là au 1er septembre.
Oui.
Et puis, en fait, l'augmentation de loyer, c'est pour payer la différence de l'investissement. C'est pas à moi de payer, je suis locataire, je suis propriétaire, je vais pas payer pour un... Pour un investissement dont je ne serais pas propriétaire.
Donc vous ne joueriez peut-être qu'un mois, si dans un mois, vous gagnez à l'euro million et que vous décidez d'acheter une magnifique villa, ce que je vous souhaite au demeurant, d'ailleurs.
Si je gagne au loto, je lui laisse son gourbi. Hein. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est un immeuble qui date des années 60. Donc avec les problèmes qu'il y a de cette époque-là, il y a bien des fenêtres à double vitrage. Mais il n'y a pas de ventilation mécanique.
Oui, il n'y a pas de VMC, oui.
Les fenêtres ne sont pas prévues pour. Or, on a une nappe phréatique qui est vraiment à ras du sol ici.
Oui.
Donc, dès qu'il commence à pleuvoir un peu, on a l'eau qui remonte dans la cave.
Oui.
Donc, on a des infiltrations d'humidité dans l'appartement. Et ce monsieur prétend qu'avec sa chaleur magique, il va résoudre le problème, que ça va remplacer la ventilation mécanique. J'ai jamais dingue. Vu des aérothermes de pompe à chaleur remplacer une ventilation mécanique, puisqu'ils ne sont pas en contact avec l'air extérieur.
Jacques, est-ce que vous avez pris contact notamment avec des associations, ça existe, hein, de défense des locataires?
Oui, j'ai un rendez-vous pour vendredi.
Ah ben, c'est bien.
C'est tout ça pour vous expliquer que s'il y a effectivement des mauvais locataires avec des gens qui finissent par squatter, par ne plus payer leur loyer, etc., c'est incontestable. et que les propriétaires ont du mal à récupérer leur logement. Moi, je suis avec un propriétaire qui fait tout pour m'écœurer, pour que je m'en aille. Alors, et malheureusement, je n'ai pas la possibilité de le faire.
Alors, Jacques, on va faire une chose. Vous avez rendez-vous après-demain, donc, avec l'association.
Oui.
Eh bien, on se rappelle semaine prochaine et vous allez nous dire ce que ça a donné, d'accord ?
D'accord.
Eh bien, vous nous rappelez d'accord. semaine prochaine, lundi ou mardi, hein, quand vous avez un moment, et on vous donnera la parole pour savoir comment ça se passe. Et on verra même peut-être, on connaît quelques avocats en droit immobilier pour vous dire ce qu'il faut faire. On se tient au courant. Vous gardez évidemment le contact avec Aude et vous nous expliquerez comment ça se passe parce qu'on veut suivre le dossier, Jacques. Merci beaucoup.
Merci, Philippe.
Et on vous dit à la semaine prochaine parce que maintenant, il va falloir conclure avec les carburants qui vous font réagir, Mathéo.
Eh oui, le prix du baril de Brent qui franchit à nouveau la barre symbolique des 100 $, le litre de diesel qui se situe autour de 2,30 € le litre et celui du sans-plomb entre 2 € et 2,20 €. Donc si vous êtes concerné par cette augmentation des prix des carburants, que vous devez sacrifier certains déplacements, vous témoignez au 0826 300 300.
Et nous avons Nicolas Deloise. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
Alors vous souffrez vous du prix des carburants ?
Alors pas tellement. Enfin, oui mais non en fait. C'est même plus une réponse de Normand.
Alors oui, que vous êtes en Picardie.
Et je suis normand d'origine.
Ah bon, d'ailleurs, donc ça, ceci explique cela.
mais comment, j'ai vu l'évolution, moi, de l'essence au fil du temps, hein, parce que j'ai que 32 ans, donc j'ai vu ce que ça donne.
Oui.
Je le vois sur la facture. Après, moi, j'ai une voiture hybride, donc ça va être pas mal, mais je oui. suis un très gros rouleur. Donc je fais 130 km tous les jours pour aller bosser.
Ah oui.
Oui, ça, c'est pas rien. Mais l'évolution du prix du carburant, je la vois, je la sens, mais j'ai la chance d'être pas trop mal payé, donc effectivement, ça pèse moins que sur d'autres personnes.
Bien sûr.
Je sais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui font les mêmes trajets, qui n'ont pas mon salaire et qui vont prendre une douille, mais sévère, quoi. Ça va être absolument redoutable. Mais le sujet d'actualité qui est de vouloir bloquer le prix des carburants...
Ou le plafonner, oui.
Mais c'est mais j'ai jamais entendu plus bête comme idée. Alors oui, c'est une solution pour les revenus modestes parce qu'effectivement voilà, il y a besoin de les aider. On va pas laisser crever les gens, on va pas les laisser sur le carreau. Oui, mais on n'avait pas des solutions moins communistes. Par exemple, je sais pas, tiens, au hasard, la fiscalité.
Bah, la TICPE, ouais. J'en parlais tout à l'heure dans les vraies voies d'ailleurs.
Hein. Bah, voilà, la TICPE, la CE aussi que le Cornu nous a mis. Le certificat d'économie d'énergie, je crois, c'est ça ? Pour électrifier le parc électrique français. Maintenant, du coup, on fait porter sur le dos des consommateurs en leur mettant ça sur l'essence. C'est nouveau, ça, tiens. Mais c'est comment maintenant, c'est que ça. Le prix, il ne faut pas plafonner le prix à la pompe, parce que de toute façon, en vérité, les distributeurs qui vendront à perte, du coup, diront, bah, nous, on s'approvisionne plus. On ne va pas vendre à perte, ça ne sert à rien. Sachant que eux, leur prix est indexé sur la spéculation internationale. Donc ils n'ont pas le choix. Total le fait, parce que Total, bon, c'est complètement autre chose par rapport aux autres distributeurs. Mais oui. Total, à son échelle, a plus contribué à aider les Français que le gouvernement français actuel, on ne va pas se mentir. Mais le vrai sujet, ce n'est pas le plafonnement, c'est la baisse de la fiscalité.
Mais ça, oui, mais je ne sais pas si vous avez entendu les vraies voix quand j'en parlais, juste après 18h, je disais, mais... Plutôt que de faire des usines à gaz, alors vous gagnez tant et vous avez tant de kilomètres, donc vous allez avoir une remise. Mais c'est ingérable, autant dire, ben on baisse la TICPE, on n'en parle plus.
C'est même pas que ça, c'est surtout qu'en plus, je suis désolé, mais on vit vraiment dans un pays communiste. On est taxé, mais on a des taux de prélèvements obligatoires qui sont confiscatoires. La différence brute nette, elle est absolument redoutable. On est taxé de partout. On est même taxé quand on est mort, on veut dire, avec l'héritage, etc.
Ah bah, c'est clair, oui. Et certains veulent taxer au premier euro, hein, d'ailleurs, hein, ils le disent.
Oui, enfin, bon, après, j'ai mon avis sur ceux qui veulent taxer à tout va, mais bon, voilà, enfin... Au bout d'un moment, faut arrêter. Parce que là, si même avec l'actualité, il y en a qui crient au retour du nazisme avec l'AFD maintenant, du coup, en Allemagne. Mais nous, on pourrait crier, du coup, au retour de l'URSS avec la France. Enfin, je suis désolé. C'est absolument redoutable. On se retrouve avec des gens qui veulent tout gérer. Vos déplacements, toi tu gagnes ça, donc tu as le droit à une aide, mais l'aide elle est prélevée sur quoi?
Excusez-moi, mais surtout que l'aide elle est totalement injuste, qu'il va y avoir un effet de seuil. Vous dites on fait une aide à ceux qui gagnent 1 500 € net, le type qui travaille à 10 km à 1 500 € net, il va avoir une aide, et celui qui bosse à 50 km par jour avec 1 600 € net, au prix du carburant, il va gagner moins avec l'aide que celui qui... Ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens et c'est complètement contre-productif. Vouloir absolument bloquer... En fait, il faut comprendre que le marché, il fait ce qu'il veut. Le marché, il doit vivre. Et le problème, c'est que les grosses entreprises, eux, sont là pour faire de l'argent. Hein, c'est pas un gros mot. Ils sont là pour gagner de l'argent.
Une entreprise est là pour faire des profits. C'est le béaba du capitalisme.
Voilà, c'est le béaba du capitalisme. Mais ça, on l'apprend quand on a fait un peu de notion d'économie. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Et derrière, quand on a une grosse société qui veut faire du profit, ce qui est son but ultime. Elle est dans un pays où on lui dit, tu sais quoi, quand tu vas faire du profit, on va augmenter ce qu'on va te prendre. Et puis ce que tu vas vendre, tu vas le vendre à perte. Parce qu'il faut nous faire plaisir un peu à nous. Il ne faut pas qu'on monte la merdée de A à Z. Donc tu vas nous servir de couverture. Et puis après, derrière, quand on dira des pénuries, le gouvernement nous dira, vous savez, nous, on avait bloqué les prix à la pompe, mais c'est ce salopard de Pouyanné qui n'a pas voulu nous approvisionner en essence.
C'est le patron de Total. Non, mais c'est vrai que, Nicolas, on vit vraiment une situation ubuesque. Merci d'avoir appelé au 0826-300-300. Il nous reste 15 secondes. Merci beaucoup, Mathéo.
Merci, Philippe.
Merci à toute notre belle équipe, à Aude, à Antonin, à Quentin, à Maxime, bien évidemment. Tout de suite, vous retrouvez notre ami Anthony Martin-Smith pour On vous a compris. On se retrouve demain, 17h, avec Cécile Dominibus et Patrick Roger. À demain.